Après avoir écouté les deux frères, le frère Mustapha qui a parlé des préliminaires mariage et le frère Daoud qui a parlé des droits des deux conjoints, nous arrivons au problème. Mais avant de parler des problèmes et comment remédier à ces problèmes conjugaux qui sont très nombreux malheureusement, et encore malheureusement une deuxième fois qui se passe entre les jeunes musulmans, une troisième fois parce qu'il se passe entre des gens pratiquants, entre des frères et sœurs. Et on voit de plus en plus de problèmes et de plus en plus de divorces et de plus en plus des enfants qui sont perdus à cause de ce divorce et à cause de ces problèmes. Et on va voir, inshallah, quelques points, quelques conseils pour remédier à certains problèmes. Avant cela, je ferai une petite introduction. C'est que si je pose la question à tous les frères, à toutes les sœurs et à moi-même, comment on devient frère qui s'aime entre eux? Ce n'est que par l'iman, que par la foi, la crainte de Dieu. إنما المؤمنون إخوة. الله سبحانه وتعالى إلى créé cette meilleure génération qui est celle des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم qui ont fait un bloc uni autour du prophète محمد صلى الله عليه وسلم grâce à l'iman, à la foi qu'ils avaient dans leur cœur.
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a uni les cœurs des croyants des sahaba, et ce n'est que par l'iman, la foi, et par la science qu'on peut avoir une vie familiale, conjugale, réussie. Par la science, le savoir, et par la crainte et la foi, l'iman. Si on a la foi et on est ignorant, la vie ne va pas réussir dans beaucoup de cas. Si on a la science et on n'a pas l'iman, la vie ne va pas réussir dans beaucoup de cas. Il faut avoir les deux. La science pour savoir ce qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, pour savoir connaître les limites de Al-Halal et de Al-Haram, pour ne pas tomber dans ce qui est illicite. Avoir cette science pour connaître les droits de chacun, les devoirs de chacun. Avoir la foi humaine par la science et par la pratique pour pouvoir pratiquer cette science, la mettre en application. Car après 14 siècles, le Coran est toujours entre nous. Les mains des musulmans. La traduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est ici dans les livres. Mais pourquoi on n'a pas atteint le degré de cette nation, de cette communauté que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous? La science est là. Mais soit on la cherche pas, soit on la cherche mais on l'applique pas. Alors pour pouvoir réussir son foyer, sa vie conjugale, il faut, un, chercher la science, connaître sa religion, connaître les limites et les bornes de Dieu subhanahu wa ta'ala, et aussi essayer d'appliquer ce qu'on connaît, ce qu'on sait, jour après jour, pour acquérir l'iman, la foi. Et remarquez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il a utilisé un terme formé de deux mots en trois endroits dans le Coran, dans le Coran. Une fois, quand il s'est adressé aux Juifs, il leur a interdit de transgresser le sabbat. Il leur a été interdit de pécher le jour du samedi, sabbat. Ils l'ont transgressé. Allah subhanahu wa ta'ala dit en s'adressant aux Juifs, وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et pour leur alliance, nous avons donc cette alliance qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle une alliance ferme, misaq ghalidh, un engagement ferme. Il dit, de Banu Israël que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de transgresser le sabbat, mais ils l'ont fait alors qu'ils avaient donné un engagement ferme, mithaqan ghaliza. Il parle aussi de l'engagement qu'il a pris subhanahu wa ta'ala des prophètes en s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant wa id akhadna dans sourate les coalisés verset 7 sourate Ahzab wa id akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Et pour leur alliance, nous avons élevé au-dessus d'eux. Donc là, il va pas, je donne la traduction de, du premier verset de Sourate An-Nisa 154 concernant Bani Israël. Nous avons élevé au-dessus d'eux le mont At-Tur. Et nous leur avons dit, entrez par la porte en vous prosternant. Et nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat, et nous avons pris d'eux un solide engagement, une alliance ferme. Mithaqan ghaliz pour Banu Israël. Mithaqan ghaliz des prophètes à partir de Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous prîmes des prophètes leur engagement, ainsi que de toi, et de Nuh, et d'Ibrahim, et de Moussa, et de Isa, fils de Marie, Ibn Maryam, et nous avons pris d'eux un engagement renforcé, c'est-à-dire une alliance ferme. Deux termes utilisés dans trois endroits dans le Coran. Un, l'engagement pris d'Allah subhanahu wa ta'ala des prophètes. Deux, de Banu Israël. Trois, ça concerne le foyer musulman, ça concerne le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand vous donnez une dot à une femme pour se marier avec, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et comment le prendre une fois que vous vous êtes découverts l'un à l'autre et qu'elles ont obtenu de vous une alliance ferme. C'est pour nous montrer la valeur du mariage en islam. Quand aujourd'hui on a inventé un divorce qui s'appelle le divorce dans les métros, eh bien on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle de cette manière-là. La femme et le mari musulman, dans le métro, un petit problème, elle lui dit au revoir, divorcé. C'est le mariage dans les métros. Et le divorce dans les métros. Et ça, c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune valeur au mariage. On donne aucune valeur. Le mariage, on est tellement influencé par le mariage des, soit des non-musulmans, des chrétiens, des, et même, je dirais, de ceux qui ne croient même pas en rien. On est influencé, on est touché par ces maladies, alors on est devenu nous-mêmes, on se marie n'importe comment, et on se divorce n'importe comment. On divorce n'importe comment. Il suffit d'un petit problème, eh bien, tu pars chez tes parents, ou bien la femme qui dit à son mari, je vais chez ma mère. Au revoir. Ou bien des fois même par téléphone. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans le Coran, dans Sourate al-Baqarah, dans Sourate al-Nisa, dans Sourate al-Talaq, dans d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré tout un système de conseils, de règles, de lois à observer pour réussir, pour garder, pour préserver le foyer musulman, pour préserver ce mariage selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, il parle de beaucoup de points, de beaucoup de règles, beaucoup de conseils dans le Coran. Est-ce qu'on les connaît? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, un, comment choisir son conjoint? Les fiançailles, c'est toutes des règles. Chaque point a des règles dans la jurisprudence, a des conseils, a des choses qui sont recommandées, des choses conseillées, des choses licites, des choses illicites. Mais je citerai que quelques titres. Les fiançailles, le mariage, la dot, le tuteur, les témoins, le consentement, la fête, comment conclure un mariage, comment dissoudre un mariage, comment remédier au problème, le divorce, les sortes de divorce, comment se passe le divorce, les droits de chacun des deux époux, la répudiation révocable, ce qu'on appelle raj'a, le serment solennel de continence, az-zihar, par la femme moyennant restitution, il y a aussi ce qu'on appelle ghul', donc le divorce obtenu par la femme moyennant restitution de tout ou bien une partie de sa dot, ghul', al-ila, le serment de continence à terme, al-li'an, l'anathème, la retraite légale de la femme, ce qu'on appelle l'idda, après chaque divorce. Il y a une période pendant laquelle la femme ne peut pas se remarier et ne peut pas donc avoir un mariage avec quelqu'un. Elle est encore sous la responsabilité de son mari, c'est ce qu'on appelle l'idda. l'istibra, al-nafaqa, la pension alimentaire, la garde des enfants, l'allaitement, etc., etc. Ceci nous montre l'importance qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala au mariage et au foyer, à la vie familiale, la vie conjugale, pour la préserver. Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé le musulman à se marier. Et en même temps, il a essayé de limiter au maximum possible dans la société islamique l'état de divorce. Le divorce est le remède, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Quand on a utilisé tous les moyens pour résoudre les problèmes et on n'y arrive pas, eh bien c'est le divorce. C'est la dernière marche. Mais ce qui se passe dans la réalité des choses, c'est l'inverse. La première marche, c'est le divorce. Après le divorce, on fait intervenir des gens. Après le divorce, on essaie de résoudre les problèmes. Alors que c'est l'inverse qui devrait se passer. D'abord, on essaie toutes les marches et les démarches décrites dans le Coran et dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant d'arriver au divorce. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, parle d'un général des armées qui installe un trône chaque fois. Ce général des armées est Satan, Iblis. Il installe son trône, il envoie ses armées, ses petits shayatins, les commandants, les sous-commandants, les, etc. Il les envoie pour semer la discorde sur terre. Après un certain temps, ils reviennent avec des rapports, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et le hadith, il est dans Sahih Muslim. Certains shayatins disent, moi, j'ai essayé pendant cette journée de faire ceci, cela. Le shaitan, le grand shaitan, Iblis, il leur dit, toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. J'ai essayé avec tel musulman pour insulter son frère et lui, tu n'as rien fait. J'ai essayé de pousser telle personne pour parler, donc la médisance de quelqu'un, et que tu n'as rien fait. Jusque ce qu'un shaitan vient lui dire, j'ai été entre deux personnes, un homme, une femme, comme exemple, j'ai essayé de semer la querelle entre les deux jusqu'à ce qu'ils ont fait la séparation, le divorce. Alors il lui dit, c'est toi. C'est toi qui es le meilleur et le rapproche de nous. C'est toi qui es le meilleur. Donc on tire une leçon du shaitan. Si on ne veut pas tirer la leçon du Coran et du Sunnah, on tire la leçon du shaitan. Il veille à détruire les foyers. C'est des familles qui sont en train de se perdre. Mes frères, il ne faut pas prendre le mariage ou le divorce à la légère. Wallah, c'est une perte. On cherche à reconstruire l'État islamique, à reconstruire la vie islamique. Comment, si les foyers sont détruits, si les générations futures sont détruites, sont perdues, comment on peut reconstruire cette vie islamique qu'on cherche? Des enfants perturbés dans leur vie, des familles détruites, des familles séparées, quand il y a le divorce. Le divorce est légalisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la tradition. C'est vrai, mais n'oubliez pas que le divorce qui se passe, qui se passait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'est passé pendant des siècles dans les sociétés islamiques, c'est pas le divorce qu'on fait aujourd'hui. Le divorce, c'était le dernier recours avec les règles de l'islam. Et même les deux partenaires, les deux conjoints, quand ils se séparaient, c'était dans le khayr, dans le bien, en général, dans le bien. Et dans la reconnaissance, l'un pour l'autre, du bien qu'il y avait entre eux. Mais aujourd'hui, quand il y a le divorce, la première chose qu'on fait, c'est le tribunal. C'est les avocats. On n'a pas de quoi manger, mais on va emprunter de l'argent, 60 000, 70 000, pour aller chercher des avocats. Et on se donne des conseils dans les rues. Tiens, il y a un avocat, c'est le meilleur dans les affaires concernant la famille ou bien concernant le divorce. Il va t'apporter ses droits. Tu veux l'envoyer en Maroc, tu vas le faire, il n'y a pas de problème. Tu y fais. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas chercher la science de l'islam et on ne met pas en application la science de l'islam qui nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on aura des enfants, le père d'un côté, la mère de l'autre côté, dans une société où on est presque incapable d'éduquer nos enfants, illa man rahim Allah, Dans des familles où il y a le père, la mère, les grands-parents, toute la famille qui s'entraide pour éduquer les enfants, on voit les conséquences. C'est très difficile de les éduquer. Alors, quand il y a le divorce, la femme toute seule ne peut pas éduquer ses enfants en général. L'homme tout seul ne peut pas le faire. Alors il faut faire attention. Le divorce, ça casse la famille, ça casse la vie des musulmans. Et à côté des deux époux, il y a des familles, la famille du mari et la famille de la femme, qui vont se haïr. Et les cœurs vont s'écarter les uns des autres, alors que l'islam nous appelle à être comme un corps, un seul corps. Si un membre de ce corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Les musulmans sont comme le jasad al-wahid, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils échouent à l'île. Si un membre souffre, tada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahari wal-humma. C'est tout le corps qui souffre. Alors, des familles qui souffrent, des enfants qui souffrent, un mari qui souffre, une épouse qui souffre, comment sera ce corps qui est la nation musulmane? C'est une nation malade. Et nous, on est responsables, parce qu'on prend les choses à la légère, mes frères. Si je parle de cette manière, c'est pour le bien de tous les frères et sœurs, parce que je vois comme vous voyez tout ce qui se passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, « Laysa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha » Celui qui soulève, on a entendu des hadiths rapportés par les frères, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'est pas des nôtres, il n'est pas des miens, etc. » Là il dit aussi « Il n'est pas des nôtres celui qui soulève une femme contre son mari pour divorcer. » Il n'est pas des musulmans celui qui soulève une femme contre son mari. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a autorisé, comme dit Umm Kulthoum bint Uqba radiallahu anha, le prophète, l'islam n'a autorisé le mensonge qu'en trois occasions. Vous n'avez pas dit qu'on est en train d'apprendre comment mentir. Il n'a autorisé le mensonge qu'en trois occasions. La première, en cas de guerre. En cas de guerre. On vous demande une chose pendant la guerre, où vous avez fait ceci, où vous avez caché cela, quelle stratégie vous avez tracée, etc. Là, il est permis, il est même obligatoire de mentir, il ne faut pas leur donner. Deux, c'est quelqu'un qui essaye de réconcilier deux musulmans. Aller chez un frère et lui dire que tes frères disent du bien de toi, et faire aussi la même chose avec l'autre pour les réconcilier. Le troisième cas, et ce qui nous intéresse ici dans ce sujet, c'est entre le mari et la femme. Allah subhanahu wa ta'ala sait comment se passe la vie conjugale. Une épouse qui vient demander à son mari, comment tu trouves le repas? Elle va dire, non, je ne vais pas mentir, il est mauvais. Eh bien, la prochaine fois, elle va te mettre du javel au lieu de la sauce. Ah, tu vas la vexer. Ah, tu lui dis, alhamdulillah, masha'Allah, il n'y a pas mieux que toi. Même si tu manges sans sel, sans épices, tu dis alhamdulillah, c'est le meilleur. Tu dis au moins, tu dis c'est un plat unique. Ah, comme ça. Ou bien elle va te dire, est-ce que tu m'aimes? Les femmes, elles posent souvent cette question. Est-ce que tu m'aimes? Ou bien un jour je vais mourir, tu vas voir, tu vas pleurer sur moi. Il dit, ah, masha'Allah, c'est toi mes yeux. Hein? Tu as la place comme mes yeux. Ah, tu es la meilleure. Même si ce n'est pas vrai, même si tu ne ressens pas un amour envers elle. Comme dit Omar ibn Khattab, quand on lui a posé la question, il lui a dit, il veut y voir. Omar ibn Khattab, il a dit, j'aime pas ma femme. Je veux la divorcer. Il dit, Allahu Akbar. Est-ce que toutes les familles, ou bien est-ce que l'amour, c'est la seule assise d'un foyer? Est-ce que la famille n'est fondée que sur l'amour? L'amour entre l'époux et l'épouse, malheureusement, on l'a mal compris. On dit, je dois sortir avec elle, un mois, deux mois, une année, après je vais me marier avec elle. Wallah, en général, Inch'Allah, tu ne vas pas te marier avec elle. Celui qui sort avec une fille, en général, il ne se marie pas avec elle. Subhanallah, ça va de soi. Et demain, il va changer une autre, il va lui dire, je vais essayer de connaître son caractère, après je vais me marier avec elle. Le lendemain, la même chose. Et après, il cherche, il va dire, il a passé trois années avec des filles, après il dit, je veux une sunniya. C'est comme ça que ça marche dans la tête de beaucoup de frères. L'amour, ça se construit. Il y a quelqu'un, subhanallah, une fois qu'il regarde une femme, une fille qu'il veut se marier avec, eh bien, il l'aime. Il l'aime. C'est pour ça que le prophète a conseillé aux compagnons d'aller regarder la fille, la femme avec qui il veut se marier. Peut-être il va l'aimer du premier coup. Ça peut arriver. Les cœurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais des fois, c'est pas le cas. Mais l'amour, ça se construit. Comme dit le prophète dans un hadith sahih, innama al-ilmu bit-ta'allum. La science, on n'est pas né savant, on l'acquiert. En cherchant la science, on devient savant. C'est-à-dire en s'exerçant. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Bit-ta'allum. En s'exerçant, on peut arriver au but. Eh bien, en s'exerçant à aimer son épouse ou son époux, on arrivera, inshallah. C'est pas parce qu'on n'a pas, on ressent pas l'amour envers sa femme ou de la part de la femme envers son mari. Eh bien, comme on entend, je l'ai entendu chez certains jeunes, dis moi je veux divorcer ma femme, ou bien la femme qui veut divorcer son mari, pourquoi? Mais je l'aime plus. On n'a pas des Roméo et Juliette en islam. Je l'aime plus. Je l'aime plus, mais vous êtes au début du mariage. Vous êtes au début de votre vie, de votre vie. Prenez le temps suffisant. Si en ayant un bon comportement, en ayant la foi, l'iman, un bon caractère, on s'aimera, inshallah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas après un mois, un an, on s'aime pas bientôt le divorce. C'est une chose qu'on a mal compris. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un autre hadith, استوصوا بالنساء خيرا. Donc, ayez un bon comportement en s'adressant aux hommes, envers les femmes. C'est un des derniers testaments qu'a fait le prophète sallam. Le prophète sallam a donné des conseils aux hommes et des conseils aux femmes. Je ne suis pas ici pour parler de tout cela. C'est pas le moment. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam a conseillé à la femme, donc, en tant qu'épouse, et à l'homme en tant que mari, c'est des dizaines de textes dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais rappeler quelques points, quelques versets dans le Coran. Et je le fais exprès de parler de ces textes et de cette manière-là, parce que si on n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, même si on a écouté, même si on a la science, eh bien, les problèmes vont toujours continuer. Parce qu'on se marie, maintenant c'est devenu une mode aussi. On se marie conformément, on dit à la sunna et à l'kitab. Mais quand on veut divorcer, on ne divorce pas conformément à la sunna et au livre. On divorce conformément à shaitan. Quand on veut faire le mariage, on appelle des frères, on appelle des gens pour lire le Coran, pour faire le mariage conformément à l'islam, donner un cours, un discours. Mais quand il s'agit de divorce, ni vu, ni connu, où est-ce qu'ils sont les frères? Tribunal. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. On n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On suit les passions, le hawa. Agnan, tu veux, tu fais un avocat, j'en ferai deux. On n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dans le Coran al-Karim, écoutez ce qu'il dit. Dans Surat al-Baqarah, verset 231, Surat al-Baqarah, après avoir parlé de la fin de cette période de retraite qu'on appelle l'idda, après le divorce, Allah il dit وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ هُزُوَا. Ne prenez pas en moquerie les versets de Dieu. Ne prenez pas en moquerie les versets de Dieu. Allah il te dit, le divorce se fait de telle manière, le mariage de telle manière, la construction du foyer conjugal d'une telle manière, mais nous on ne le fait pas. Alors Allah il dit, attention, ne prends pas ça en moquerie. Tu es en train de te moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu seras puni. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوَا. Dans le verset 229, deux versets avant, dans Surat al-Baqarah, Allah il dit, après avoir parlé du deuxième divorce, après un premier, un deuxième, il est permis de le faire trois fois. Après le deuxième divorce, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Voilà le bord de Dieu, les limites tracées par Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَعْتَدُوهَا. Ne les transgressez pas. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux qui transgressent les limites tracées par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là certes sont les injustes, les prévaricateurs, الظَّالِمُونَ. Dans le verset 230 après le 229, Allah il parle du troisième divorce. Qu'est-ce qui se passe après le troisième divorce? Il a donné certaines règles, il dit à la fin, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ceci sont les limites de l'islam, les limites de Dieu. Allah les éclaircit, les montre et les expose à un peuple, à quelqu'un qui comprend. C'est-à-dire celui qui ne suit pas ces règles de l'islam, c'est quelqu'un qui n'a pas compris sa religion. Les qawmin, ya'lamoun. Dans le verset 223, dans Sourate al-Baqarah, après l'explication de ce qui est permis, de certaines choses permises, dans les règles, dans les rapports sexuels entre les deux époux, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wattaqullah, pour ne pas tomber dans ce qui est laissé dans les rapports conjugaux, wattaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annakum mulaquh, sachez que vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, wabashir al-mu'minin, et ceci est une bonne nouvelle, annonce une bonne nouvelle aux croyants al-mu'minin qui pratiquent les règles de l'islam dans cette vie des deux conjoints. Allah subhanahu wa ta'ala, après le système d'allaitement en islam, il dit واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. Craignez Allah, encore une fois, la piété, l'iman, la taqwa, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez que oui, Dieu est observateur de ce que vous faites. Et après la fin du délai que doit observer la femme qui a perdu son mari par la mort, il est mort, عده المتوفى عنها زوجها, Allah il dit à la fin والله بما تعملون خبير. Allah subhanahu wa ta'ala, verset 234 dit, Dieu est bien informé de ce que vous faites. Ceux-là sont certains passages, certains versets parlant de l'importance de l'iman, l'importance de la science pour réussir le foyer, pour réussir la vie conjugale. Quand il y a des problèmes, mes frères, la première chose à faire, c'est de se rappeler de la règle, ou bien du proverbe qui dit, Al-wiqayatu khayrun min al-ilaj. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, le musulman, que ce soit le mari ou la femme, il doit être quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est éveillé, qui a l'esprit bien, je dirais, bien voyant. Pour ne pas tomber, avant de tomber dans les problèmes, il doit faire attention pour remédier à ces problèmes avant qu'il, ou bien aux signes apparents comme quoi il y aura des problèmes. Alors il doit faire attention pour les résoudre avant que ça s'aggrave, avant que ça devienne une catastrophe, un divorce. La première chose à faire, c'est de connaître la nature de chacun de nous. L'homme n'est pas comme la femme n'est pas comme l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a voulu créer, comme on dit aujourd'hui, l'égalité des sexes. L'homme et la femme sont les mêmes. Ça, c'est comme on dit en arabe, kalimatu haqqin urida biha batil. C'est une phrase qui est vraie, mais qui cache du poison à l'intérieur. Elle cache des mensonges, elle cache des objectifs qui ne sont pas vrais derrière. Il y a une égalité, na'am. Mais, déjà, dans le physique, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Dans la force, on n'est pas les mêmes. Dans les rôles et les fonctions, on n'est pas les mêmes. Le rôle du mari, si on veut une égalité à 100%, eh bien, il faut attendre qu'un homme accouche. Tout simplement. Si on veut une égalité à 100%, c'est impossible. On se contredit. Chacun a sa nature. Il faut comprendre la nature de l'homme et la nature de la femme. Comme le montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que j'ai cité là tantôt, le début, Sawsou bin Nisa et Khaira, comportez-vous d'une meilleure façon envers les femmes. Et il explique la nature de la femme. Et aussi, dans l'autre hadith, il se peut qu'un jour, ta femme, tu peux écouter, entendre cette parole. Elle va te dire, parce que tu as passé 3 ans avec elle, ou 40 ans avec elle, ça peut arriver, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as toujours fait du bien envers elle. Mais un jour, tu l'as énervée. Elle va te dire, A'udhu billah, j'ai jamais vu du bien avec toi. Que du mal. 40 ans de bien, elle va te dire ça. C'est normal, l'âme, c'est normal. Tu peux l'écouter, l'entendre d'elle. Comme dit le prophète, t'akfourna al-ashir. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قد جي جامي في دي بيان avec toi. Il faut connaître ce genre de réaction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a vu sa femme, une de ses épouses, casser un plateau devant lui. Il était dans la maison d'une de ses épouses. C'était son jour, donc le jour de cette épouse-là. Et une autre de ses épouses lui a envoyé un plateau. Imagine, on t'envoie du couscous, par exemple. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il était content, on lui a envoyé quelque chose. Mais sa femme avait cette jalousie. C'est son jour à elle, c'est son droit. Alors, elle a été vers l'homme qui a apporté, donc le serviteur qui a apporté, le servant qui a apporté le plateau, elle l'a cassé. Et alors, ça, le commentaire qu'il a fait en disant, Gharat ummukum, votre mère est jalouse. Mais si on était à sa place, hein, chacun aurait montré combien il avait de dingue en karaté. Donc, le premier point, c'est de connaître la nature de chacun de nous. Pour bien comprendre à qui on a affaire. L'homme a des fonctions, la femme a des fonctions précises, a un caractère et une nature précise, il faut les connaître. Oui. Le deuxième point, c'est de connaître les droits et les devoirs de chacun. Ça nous évite aussi beaucoup de problèmes. Parce que si on ne connaît pas les devoirs de l'homme envers sa femme, les devoirs de la femme envers son mari, c'est les droits et devoirs qu'a cité le frère Daoud, eh bien il y aura des problèmes. Parce qu'on mélange les devoirs et les droits de chacun dans le foyer. L'homme qui devient femme et la femme qui devient homme. La femme qui est partie travailler, l'homme qui est en train de regarder la TV. On mélange tout. Eh bien, si on ne connaît pas les droits et les devoirs, on aura des problèmes. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé les droits et les devoirs de chacun des deux conjoints. Le troisième point, je vais vite, c'est de se comporter, pour éviter, avant d'arriver au problème, c'est de se comporter bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, comme a dit le frère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Il se peut que tu aies de l'aversion envers ta femme, ou bien la femme envers donc son mari, mais il se peut que malgré cette aversion, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'autre côté, il a mis entre vous un bien, ou bien beaucoup de bien, comme il dit خَيْرًا كَثِيرًا, beaucoup de bien, si tu ne vois pas. Alors, comme on dit, si tu as un verre qui est rempli à moitié, ne regarde pas toujours la moitié qui est vide, mais regarde aussi la moitié qui est pleine. Donc regarde aussi les côtés positifs de ta femme. Et la femme regarde aussi les côtés positifs de son mari. On regarde pas tout ce qui est négatif. Il faut aussi avoir de la patience et de la sagesse. As-sabr wal-hikmah. Quand on perd la patience, et on a perdu beaucoup de patience aujourd'hui, on n'a pas de patience, ni l'homme, ni la femme. Le moindre problème, qu'est-ce qu'on fait? Pour le moindre problème, qu'est-ce qu'on fait? La première réaction. Le téléphone chez ma mère. Téléphone. Allô, ma mère, j'ai un problème. Maman, j'ai un problème. Directement. Ou bien la police. Point 1. Ou bien c'est la catastrophe. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la patience, à voir de la patience, au sabr. Et aussi avoir l'hikmah, la sagesse. Des fois, on croit que le fait d'être sévère, c'est ça l'islam. Être sévère en tout, jamais sourire. Ah, mashallah, le frère, il ne sourit jamais quand il rentre, il fait peur même au mur. Alors, on croit que c'est lui qui applique l'islam, mashallah. Ça, c'est de l'jahl, c'est de l'ignorance, tout simplement. On compare à qui? Notre exemple, notre modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le hawa. Eh bien, est-ce que l'on s'en fait rentrer comme ça, de cette manière-là, chez lui? Il avait très souvent, alors s'en fait sourire, à ses compagnons, à ses femmes, très souvent. Quand il y a des problèmes, c'est autre chose. Mais rentrez, on est avec les frères, entre nous, on rigole, on s'amuse, on est souriant, mashallah. Les sœurs entre elles, la même chose. Quand elles sont invitées les unes chez les autres, hein, on rigole, on s'amuse, etc. Mais quand on se rencontre le soir à la maison, eh bien, attention, attention, pas de sourire. Pourquoi on croit en disant on sourit à la femme, eh bien, elle va en profiter. Ça c'est l'ignorance. Toi tu fais ce que te demande Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui détient le cœur. Wallah, sache mon frère, et aussi les sœurs, plus vous faites du bien l'un envers l'autre, wallah, plus on vous respecte, l'un respecte l'autre plus. Même si la femme essaie de profiter de ta gentillesse, wallah, tu seras récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala du moment que c'est dans les limites de ce qui est permis. Et aussi, l'homme ne doit pas croire qu'il va profiter si sa femme est gentille envers lui, mais elle sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours avoir derrière ce qu'on pense, cette récompense que Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservée si on essaye d'appliquer ce qu'il nous demande dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas avoir cet esprit matérialiste. Plus, l'argent. On pense qu'à l'argent. Quand il y a des problèmes, et il y a eu des problèmes, beaucoup de problèmes à cause de l'argent. La plupart, je dirais la plupart des problèmes, c'est à cause de plus, l'argent. À cause de l'argent. La belle-mère qui intervient. Elle intervient, elle dit, « Binti, miskina, mudhi'a. Oh, la pauvre, elle n'a pas de compte bancaire. Allahu Akbar. » Elle rentre, elle fait un tour à la maison, regarde. Elle n'a pas une armoire à 60 000. Elle n'a pas de table de girga, de souira. Hein? C'est pas son problème. La belle-mère, c'est pas son problème. Ça, c'est la vérité, c'est pas son problème. Et c'est pas la chose la plus importante dans la vie conjugale. À cause de l'argent, il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, mes frères, ayez de la sagesse, al-hikma. On prend l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La femme commet une erreur, ou bien le mari commet une erreur. La meilleure façon, c'est la sagesse. وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui qui Allah a donné la sagesse, il lui a donné beaucoup de bien. Tu peux dire, comme un jour, un sultan a fait un rêve. Il a fait un rêve, il a vu dans son rêve qu'il a perdu toutes ses dents. Toutes ses dents. Il a appelé quelqu'un. Ce quelqu'un lui a dit, « Oh sultan, tu vas perdre toute ta famille. Tu vas perdre toute ta famille, toi aussi tu vas mourir. » Sultan lui a dit, « Sors, barra, sors. » L'autre, alors le sultan, il a appelé un autre savant. Le savant, il lui a dit, « Qu'est-ce que tu as vu, au sultan ?» Il a dit, « J'ai vu que j'ai perdu toutes mes dents. » Et il lui a dit, donc c'est la même interprétation, mais la manière est différente. Il lui a dit, tu seras la dernière personne qui va mourir parmi toute ta famille. Ça veut dire la même chose. Mais l'autre lui a dit, tu vas mourir, toi et ta famille. Et le deuxième lui a dit, il va mourir, mais il sera le dernier. Il lui a dit, toi, sultan, inshallah, c'est le dernier qui va mourir. Donc on peut dire la même chose, mais différemment, avec hikma. Avec hikma, t'as pas besoin de lui dire, oh, ça c'est Macron, ya Adouwakallah. Non, tu peux pas, mon frère. Ou bien lui dire, parce qu'elle manque du sel, tu casses la table, tu casses les plateaux et tu sors, tu frappes la porte. La sœur ne peut pas dire à son mari parce qu'il y a un petit problème et il s'est tardé une fois, une heure ou une demi-heure, une fois, sur combien de temps, il va dire, toujours barra, toujours à l'extérieur, entre toujours tard, toujours. Ça c'est pas vrai. Tu peux gagner ton mari, ma sœur, par la gentillesse, par le bon comportement, par la sagesse, et non pas par arnel, comme on dit. Se mettre tête à tête, ça va casser le foyer. Ni le mari, ni la femme vont aider le foyer à réussir son trajet en se mettant tête à tête. Il faut de la sagesse et de la patience. Allah subhanahu wa ta'ala, dans trois versets dans le Coran, il dit, وَالَّتِي تَخَافُنَّ نُفُوزَهُنَّ. Et quant à celle dont vous craignez, donc une chose, c'est quand tu vois ta femme, elle commence déjà à changer, à lever sa voix sur toi, ce qui n'était pas le cas avant, et à te contredire, etc. Tu vois, ça change. Eh bien, du haut que tu crains, tu dois intervenir pour remédier à ce problème. وَالَّتِي تَخَفُونَ نُشُوزَهُنَّ Dès que tu vois les premiers signes, et bien aussi à la femme, وَإِنْ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَابًا Une fois la femme craint que son mari commence à changer, elle doit intervenir pour remédier à ce problème. On ne laisse pas les choses s'aggraver. Allah, ils ont là des signes, comme quoi il faut intervenir dès les premiers signes des problèmes. Il ne faut pas laisser les choses s'aggraver. Il dit aussi, وَإِنْ خِفْتُمْ Remarquez chaque fois, خَافَ خَافَتْ خِفْتُمْ Craignez. Chaque fois que vous craignez, déjà les premiers signes, وَإِنْ خِفْتُمْ شِخَاقَ بَيْنِهِمَا Quand vous craignez dans un couple qu'il y ait une séparation, dès qu'il y a des signes, il faut intervenir. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle aussi à trouver des solutions très très rapides. Comme, regardez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu, il a remarqué que sa femme a changé, Aïcha radiallahu anha. Alors il est venu lui dire, il a dit, Aïcha, je sais quand tu es en colère contre moi et quand tu es contente de moi. Il a dit, ah, Rasulallah, comment tu le sais? Il a dit, quand tu es en colère contre moi et tu jures, tu dis, je jure par... D'abord, il dit, quand tu es contente de moi, tu dis, je jure par le Seigneur de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La wa Rabbi Muhammad. Et quand tu es en colère contre moi, tu dis, je jure par le Seigneur d'Ibrahim. Alors, Aïcha a dit, ya Rasulallah, Wallah, je n'évite que ton nom. C'est pas que je t'évite toi, je t'aime beaucoup. Mais quand je suis nerveuse, je suis en colère contre toi, et c'est ton nom que je ne cite pas, tout simplement. Alors, le Prophète, il a remarqué que la parole de Aïcha, une fois elle dit, je jure par le Seigneur de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, une fois elle dit, je jure par Dieu de Ibrahim. Il a remarqué que c'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui cloche, comme on dit. Alors, il a intervenu pour résoudre ce problème, même s'il est petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu, إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. Si tu jures de ne pas faire quelque chose parce que ta femme t'a énervé, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, essaye de faire l'expiation kafara et de laisser tomber le serment que tu as fait. Ne dis pas, j'ai juré, voilà, je dois tenir à ma parole. Sinon, je vais me montrer, hein, comme on dit, Darija. Comme vous dites en Darija. Hein, vous dites, on se montre chemin, hein, c'est ça. Moi, je vais me rabaisser devant ma femme. Non, mon frère, tu es en train de te rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas casser ta famille. Tu vas casser ta famille. Tu as juré de ne pas faire quelque chose. Eh bien, si tu vois que ce que tu vas faire est mieux que la chose sur laquelle tu as juré, eh bien, laisse tomber. Et fais le bien. Fais le bien. Après, tu vas faire le kafar, l'expiation. Le dernier, c'est de faire siyam. 3 jours, c'est le dernier. D'abord, libérer un esclave, il n'y a pas. Donner à manger à 10 pauvres, ou bien les habiller. Si tu es incapable, ah, tu fais les 3 jours. On va directement 3 jours. Le dernier point sur lequel je vais m'arrêter, en 2-3 minutes, c'est important. C'est connaître le degré des problèmes. Il y a un problème. Les problèmes ne sont pas tous les mêmes. Il y a des degrés. C'est pas parce que le mari a prononcé une parole de travers qu'il fallait pas, on va divorcer. Ce n'est pas parce que la femme a prononcé une parole qu'il fallait pas, on va divorcer. S'il s'agit d'un petit problème, eh bien, on l'oublie. Les petits problèmes, ça se passe dans tous les foyers, sans exception, même chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les petits problèmes quotidiens, ça se passe dans tous les foyers, sans exception. Alors il faut les oublier. Essayer de conseiller, essayer de rappeler, de l'exhorter, exhorter sa femme ou son mari. Mais il faut les oublier. Ne pas rester là et divorcer à cause d'un petit problème. J'ai demandé à ma femme de mettre ce vase à côté de la TV et la famille, c'est le divorce. Divorce. La femme a dit à son mari qu'il doit m'acheter une pizza. Elle l'a pas apporté. Divorce. Franchement, est-ce que le mariage se construit sur ce genre de problème, sur ce genre plutôt de réaction? C'est impossible, impossible. Et quand je donne ces exemples, c'est pas de l'imaginaire. C'est pas de l'imaginaire. je les ai vécus. Je connais des frères qui ont eu des problèmes, des petits problèmes, et je veux vous le dire, la plupart des problèmes, ce sont des problèmes qui n'ont aucune importance. Et ça provoque le divorce. Aucune importance. Wallah, quand tu vas voir, pourquoi il y a le divorce? Wallah, non, lui, il veut pas, moi, je veux pas, lui, 2 francs, 20 francs, 100 francs sur mon compte, des problèmes, comme on dit, bêtes. Un divorce. Subhanallah. Où est-ce qu'il est la patience? Le prophète, comme on l'a dit, le frère Daoud, il a donné une chance à la femme, en obéissant à son mari, d'aller au paradis. C'est une garantie. À côté de la prière, le jeûne, etc. Et le prophète sallam aussi a ordonné à l'homme de se comporter de la meilleure manière envers sa femme. Il faut avoir sabr. Un deuxième degré, c'est quand ça devient plus grave. Ce deuxième degré, on peut faire intervenir des intermédiaires, juste pour conseiller. Non pas des arbitres, mais des gens de la famille, des amis, des gens pieux, pour conseiller. Conseiller le mari, donner des conseils à la femme, pour essayer de remédier à ce problème. Et là aussi, l'importance des parents. Si les parents ne jouent pas le rôle en tant que des gens de bien qui veulent aider à faire du bien, eh bien, c'est dans beaucoup de cas, les parents ont provoqué le divorce. Quand il y a des petits problèmes entre l'homme et la femme, le père ou d'un des côtés, ou la belle-mère, elle vient, elle intervient pour dire, soit tu fais ceci, ou bien je prends ma fille. Ou bien la femme dit à son enfant, eh bien, soit tu m'écoutes, ou bien tu divorces ta femme. Les parents doivent intervenir dans le bien et pour le bien, et non pas pour casser. Subhanallah, quand les parents se sont mariés, combien ils n'ont pas eu de problèmes dans leur vie? Combien ils n'ont pas dû avoir de patience seule pour construire leur foyer et leur vie? Ils étaient pauvres, ils n'avaient rien du tout, ils avaient beaucoup de choses qui leur manquaient. Mais ils ont construit quand même leur foyer. Mais on exige des enfants et des jeunes ce qu'on n'a pas fait nous. Subhanallah. S'il n'y a pas ça, eh bien divorce. Non, les parents n'ont pas le droit de le faire. Ils doivent intervenir pour le bien. Comme l'a fait Abu Bakr et Omar, quand il y a eu des problèmes entre Hafsa, Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de dépenses, plus d'argent. Le Sassim s'est mis en colère contre elles pendant presque un mois, plutôt un mois. Et Abu Bakr et Omar, ils sont intervenus pour résoudre ce problème. Ils ont conseillé leur fille de dire ça, c'est pas bien. On doit pas regarder. Quand il y a un problème, subhanallah, entre le mari et la femme, on va chez les parents, on dit qu'il y a un problème. Au beau-père ou bien à la belle-mère. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, c'est entre vous. De brorashko. Il y a un problème où on n'a pas pu le résoudre. On n'a pas su trouver une solution. Eh bien, si vous ne dites rien à la fille, et vous dites pas rien au mari, eh bien, qui va résoudre ce problème? Il faut intervenir. Sinon, on fait intervenir d'autres personnes. Si les parents ne veulent pas intervenir, on fait intervenir des amis. Comme a fait Salman, radiallahu anhu, quand il a dit à Abu Darda, il a dit, inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li nafsika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa, fa'a'ti li kulli dhi haqqin haqqa. Salman a remarqué que ça va pas dans le foyer de Abu Darda avec sa femme. Salman a remarqué que Abu Darda s'occupait de l'adoration, l'ibada, il donnait pas les droits à sa femme, et bien lui a fait la remarque. Il dit, tu as des droits envers ton créateur, des devoirs envers ton créateur, des devoirs envers ta propre personne, et des droits envers ta femme. Donc ça, c'est une intervention d'un ami. Et Salman, radiallahu anhu, les amis doivent intervenir, conseiller chaque fois. Ça, c'est une chose qui est très importante. Wallah, elle est très très importante. Si on l'a fait, on va sauver beaucoup de foyers. Entre nous, quand on se rencontre, on est des frères, des amis. Eh bien, tu dis à ton frère, tu dis, Chif l'Ahwal, comment ça va, l'Ahwal? Ça va bien? Il n'y a pas de problème, alhamdulillah. Barakallahu lak, ahlik. Que Dieu t'aide, que Dieu te donne de la bénédiction, toi et ta femme, et tes enfants. Elles se rencontrent, elles demandent, comment va-t-on? Non, pas pour voir, comment est-ce que ça va bien ou ça va mal. Hein? Non, pour encore semer la discorde entre les deux. Au contraire, demande toujours à ton frère comment il va. Tu dis tes enfants comment ils vont, et toi comment tu vas, ta vie, ça va bien, il n'y a pas de problème, alhamdulillah. Et si tu sens que le frère ou la sœur, il y a un petit problème, tu interviens directement ou indirectement. Un troisième degré, quand ça devient, il y a la sonnette d'alarme, donc qui sonne. Là, on a, c'est Allah qui nous montre à ce moment-là qu'il faut faire l'arbitrage, le tahkim. Donc ça n'a pas marché, as-sabr, ça n'a pas marché, la sagesse, ça n'a pas marché. Faire intervenir des gens, des amis, des frères, des proches pour conseiller, ça n'a pas marché. Par l'exhortation, ça n'a pas marché. Par la cassette, ça n'a pas marché. Alors là, on arrive à un stade critique. On fait intervenir des proches, ou bien un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la famille de la femme pour essayer de résoudre, de trouver une solution au problème. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Si vous craignez la séparation du couple, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. Allez appeler un arbitre de la famille du mari, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Un arbitre de la femme, de la famille de la femme, إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Si les deux parties, les deux arbitres cherchent vraiment, dans l'intention, ils cherchent vraiment une solution, Allah va les aider. يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Allah va aboutir à la réussite et à résoudre le problème qui s'est posé entre les deux maris, les deux époux. Mais dans des cas, on ne le fait pas. On le fait pas. On appelle des arbitres pour encore foncer la famille dans les problèmes, plus de problèmes, pour enfoncer la famille dans plus de problèmes, pour encore casser la famille, et non pas pour résoudre les problèmes. C'est le père qui intervient ou la mère, et chacun avec sa fierté, il l'a mis là où il faut pas, au lieu de regarder loin, c'est l'avenir de sa fille qui est en train de se détruire, c'est l'avenir de son fils qui est en train de se détruire, on regarde le shaitan, on dit non, je ne peux pas descendre, je ne peux pas me rabaisser, parce que je perds ma fierté. Quelle fierté? La fierté de Jahiliya? Quelle fierté? C'est pas une fierté. La fierté, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la fierté. La fierté, c'est de montrer son humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la fierté. Et non pas de rester sur ses positions, même si on est fautif. Même si on va casser un foyer, je reste sur ma position. Eh bien, le dernier degré, quand ça n'a rien fonctionné, rien ne marche, là, on peut penser au divan, dans les règles de l'islam. Et je m'arrête là. J'ai d'autres choses à dire à ce sujet, mais inchallah, je m'arrête là. C'est la prière du Maghreb. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
La question donc qui a été posée concernant, en fait, ça fait surtout allusion au verset qu'on a cité: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Malheureusement, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, si j'ai bien la question. Donc, Allah nous a créé en tribus nations différentes afin de préserver les liens du sang. Mais alors, les mariages entre origines différentes, sont-ils licites ou pas? Sa personne n'a dit le contraire. Vers la preuve, la fin du verset l'indique, « Inna akramakum indallahi atqakum ». Donc, le plus méritant, le meilleur parmi vous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le plus craintif, donc être taqwa. Et c'est ça le critère. Mais bien entendu, ce verset indique surtout que l'importance des liens de sang. Il n'indique pas qu'on ne peut pas se marier, comment dire, qu'on ne peut pas faire de mariage, que certains appellent mariage mixte, loin de là. Donc, faut tenir compte de la fin du verset. Allahu a'lam.
Cher Daoud. Une femme peut-elle poser comme condition dans le contrat de mariage que son époux ne se marie pas avec une autre femme?
La seule chose que je pourrais dire, ça n'a pas fait avancer, comme on dit beaucoup la personne qui pose la question, c'est qu'il y a khilaf ben ahl al-ilm. Donc il y en a qui voient que c'est permis de poser cette condition. Il y en a qui voient que c'est interdit, que c'est une condition qui est, comment dire, nulle et non avenue. Comme on dit, donc, qui n'est pas permise. Mais, personnellement, bon, j'ai déjà lu quelque chose là-dessus, mais, personnellement, dire quelle est l'opinion la plus forte, tranchée, donc, l'opinion la plus forte, moi, j'en suis incapable. Bon, bah, même si de faire en quelque chose. Ce que je sais, voilà, il y a Hirtilef en train de l'aide. vous allez me dire, bon, ça nous avance pas beaucoup. Mais je ne sais pas, moi je ne pourrais pas dire. Moi-même, je n'ai pas vu quelque chose qui m'est apparu. Avec Zébil est vraiment le plus fort.
Question pour Adil. Lorsque l'on voit un couple qui divorce pour des bêtises, mais que l'une de ces deux personnes regrette, peut-on essayer d'arranger les choses, même si les parents de ces deux personnes ne veulent pas que les choses s'arrangent? Donc il y a un intermédiaire, il y a une troisième personne. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bien sûr que lorsqu'il y a un problème, il y a un divorce entre deux conjoints pour des petits problèmes, donc un divorce à cause des petits problèmes, on doit essayer d'arranger les choses entre eux. Surtout que donc celui ou celle qui a posé la question dit qu'il y a un regret, donc les deux personnes le regrettent ce divorce. Eh bien, ça, c'est un point positif. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de telle sorte que le divorce s'est fait en trois fois. Donc, la première fois, et puis il y a un délai, l'idda, une deuxième fois, un délai, l'idda, puis une troisième fois. Ce n'est qu'après la troisième fois qu'il est interdit de se remarier, donc, entre les deux conjoints, à moins que, donc, cette femme s'est mariée avec quelqu'un d'autre, il l'a divorcée, donc, de son propre gré, elle peut se remarier de nouveau avec son premier mari. Donc, l'idda, ce délai de retraite d'attente, il est fait pour réfléchir, pour ne pas prendre des décisions de divorce sans réflexion. Alors, si cette idda, ce délai est passé, après un premier divorce, ils ont le droit de se remarier de nouveau, avec un nouveau contrat de mariage. Après le deuxième, c'est la même chose. Donc, le fait de se remarier après la fin du délai de l'idda, c'est une chose qui est très très bien. Et les parents n'ont pas le droit de leur interdire ce mariage du moment qu'il se fait dans les conditions de l'islam. Et c'est pour des objectifs islamiques. Et Allah a interdit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, il interdit à l'ouali ou tuteur d'empêcher sa fille ou sa sœur de se remarier avec son ex-mari après le divorce. Donc si la femme veut se remarier, retourner chez son mari après donc la fin du délai, elle a le droit de le faire, mais avec un nouveau contrat, et le père n'a pas le droit de lui interdire.
Peut-on demander la fille en mariage d'abord à la fille pour être bien sûr, et puis après au père?
Donc, si j'ai bien compris la question, je vais relire pour m'assurer que ma vision, ma vue de tout ne me trompe pas. Peut-on demander la fille en mariage d'abord à la fille, être sûr, et puis demander au père? Pourquoi ces complications, subhanallah? Pourquoi compliquer? Pourquoi il est passé par tous ces entourloupes, ces combines, et à la fin il s'en sort plus? Ici, la chose est assez claire. Le chemin pour demander donc la fille en mariage, c'est le tuteur, ça passe par le tuteur. Et de ce que j'ai vu, et de ce que d'autres frères parmi lesquels Adil également, de ce qu'on a vu, c'est que tous ceux qui ont essayé d'outrepasser ce chemin, c'est-à-dire de passer par les tuteurs, et qui ont directement, sans rencontre avec leur fille, eh bien, je peux vous garantir, et j'ai plein d'exemples à ce sujet, ça s'est très mal terminé. Ça s'est terminé par zina ou l'aïdou billah, et par beaucoup d'autres choses, parce que Shaitan le trompe. Il dit non, c'est bon, vas-y, fais sa connaissance, hein, maintenant tu peux la demander. Il ne va pas la demander à son père maintenant. Attends un peu. Vas-y, maintenant fais sa connaissance, et après, inchallah, tu verras, tu décideras par toi-même. Et à la fin, donc, ça s'est terminé par zina ou l'aïdou billah, et beaucoup d'autres problèmes. Donc, le meilleur chemin, c'est de passer, wallahu a'lam, par le tuteur, vu que c'est lui son responsable légitime, et c'est l'air du prudent, inchallah.
Donc, est-ce que la femme peut interdire à son mari, tout comme lui, de faire rentrer quelqu'un dans sa maison sans son autorisation?
Est-ce que la femme donc peut interdire à son mari de faire rentrer quelqu'un chez lui? Là, au point de vue de l'âme de Ma'ruf, c'est sûr que si elle voit quelqu'un donc qui fait rentrer des désobéissances chez son mari, quelqu'un donc un fessier, quelqu'un qui pervertit son mari, c'est clair, elle doit lui dire, elle doit lui dire, bon, tu ne peux pas faire entrer cette personne, crains Allah. Mais, donc ça c'est pour quelqu'un donc, qui est vraiment quelqu'un qui pervertit son mari. Si c'est quelqu'un qu'elle, bien sûr, n'aime pas tellement, Allah même ce qui apparaît, c'est qu'elle n'a pas le droit de l'interdire, tout comme l'homme lui a le droit. Et donc c'est quelqu'un juste, bon, ce n'est pas quelqu'un qui pervertit son mari, mais elle n'aime pas par exemple son caractère, ou pour une raison ou pour une autre, ce qui apparaît, Allah même c'est qu'elle n'a pas le droit de lui interdire.
Est-ce un péché de s'énerver sur son mari et de se mettre à crier? Donc ma sœur dit qu'après l'avoir fait, même si cela est justifié, j'ai honte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et je crains qu'il soit en colère. Mais comment garder son calme? Donc elle demande à quoi?
Allah, tout d'abord, le fait qu'elle l'a regretté, ça c'est un point positif. Ça veut dire que c'est une sœur qui a l'iman, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'elle regrette, qu'elle fait, et qu'elle veut se rattraper. Le deuxième point, je crois que le frère Daoud l'a cité quand il a parlé de droits et de devoirs, que si la femme donc, met son mari en colère, c'est un péché, elle est maudite par les anges. Si elle ne demande pas pardon à son mari, donc elle doit demander pardon à son mari, et à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle essaye de remplacer sayyi'a par al-hasana, atbi'i sayyi'at al-hasana tatamhuha. Donc de faire effacer la mauvaise action par la bonne action. Et j'ai un petit rappel. Donc pour ne pas comprendre les choses, donc la première question qui a été posée, donc j'ai dit que les parents n'ont pas le droit d'interdire à leur fille de retourner chez son mari, ce qui ne veut pas dire que la femme ne doit pas avoir un tuteur. Donc le tuteur est obligatoire, est une condition. Le tuteur, la présence du tuteur, donc l'accord du tuteur qui le lie. Aussi, pour qu'il n'y ait pas donc un mélange des choses, donc ce genre de questions se posent très souvent. On dit, est-ce que la femme a les mêmes droits que le mari, donc vis-à-vis de son mari? Donc, alors on dit, puisque le mari a le droit de faire ceci, donc la femme a le droit de faire cela. Alors, si on prend le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle des degrés du conflit, des querelles entre le mari et la femme, il parle à l'homme, il dit exhorte donc la femme, ثم فاعظهن واهجرهن في المضاجع, donc de l'équité dans le lit, etc. Alors on ne va pas appliquer la même règle, on dit puisque l'homme a le droit de le faire, donc la femme a le droit aussi de le faire. Donc non, c'est des règles, Allah il s'est adressé à l'homme dans certains cas et à la femme dans d'autres cas. Donc c'est pas les mêmes règles qu'on peut appliquer pour se corriger à l'homme et à la femme. Ça c'est une erreur. C'est-à-dire, puisque l'homme a le droit de faire ceci à sa femme, donc la femme a le droit. L'homme a le droit d'interdire à sa femme, donc la femme a le droit d'interdire à son mari cette chose-là. Ça c'est une erreur. Le mari, c'est lui qui est responsable sur toute la maison, sur tout le foyer. وَالرَّجُلُ مَسْئُولٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est responsable sur toute la famille. Et la femme est responsable sur le foyer. Mais l'homme, c'est le responsable sur tout. Donc on ne peut pas dire que cette interdiction, donc engendre automatiquement, la femme a le même droit dans ces cas. C'est pas vrai. Aussi, un point sur lequel je vais m'arrêter en quelques secondes. Quand le frère Mustapha a expliqué, donc la femme, est-ce qu'elle peut se proposer pour le mariage, pour que les frères ne le comprennent pas mal, la femme au temps du prophète qui s'est proposée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a utilisé le terme je m'offre, wahabtu nafsi, je m'offre à toi ya Rasulallah. Donc aujourd'hui la femme ne peut pas le faire, s'offrir, mais le frère Mustapha a voulu dire donc se proposer au mariage. Comme ça les frères ne vont pas mal comprendre cette chose là ça c'était une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des femmes qui sont venues chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire je m'offre à toi, sans sadar, sans tuteur, sans. Elle s'offre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, prendre du côté de la proposition au mariage. Wallah.
Donc, si une jeune femme veut se marier dans une ambiance, donc la fête, la plus simple et la plus islamique, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas de gaspillage, et que sa mère refuse, et désire une très grande fête, peut-elle aller à l'encontre de la décision de sa mère? Peut-elle aller à l'encontre de la décision de sa mère?
C'est une question, en réalité, je m'y attendais. La simple raison, c'est que c'est un grand problème qu'il y a dans beaucoup de familles, beaucoup de nos foyers musulmans. Le problème se pose, c'est-à-dire que le garçon ou bien la fille veulent justement faire les choses dans l'ordre, dans les règles, mais malheureusement les parents qui sont écrasés sous le poids des traditions, des coutumes, etc., ne veulent rien comprendre. Ils disent non, nous, il faut qu'on fasse ceci et cela. Et toujours, bien sûr, c'est toujours le même problème, c'est pour que les gens ne parlent pas sur la femme elle-même et sur comment elle a fait le mariage. Donc c'est toujours le grand problème qu'on a, c'est toujours de faire en sorte que les voisins, oui, il faut pas que les voisins nous critiquent, etc. Mais de toute façon, tu seras toujours critiqué, que tu le fasses bien ou mal, toujours tu seras critiqué. Il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas garder leur langue. Et, subhanallah, on a le conseil de Aïcha, radiallahu anha, qu'elle avait donné à Muawiya, radiallahu anha, dans lequel elle lui dit, il t'amis ridallah, wa in sakhitak al-nas. ولا تلتمس رضا الناس بسخط الله. Il demande l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si les gens sont tous contre toi, te désapprouvent. Et ne cherche pas à avoir l'agrément des gens en t'attirant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, ça c'est le principe purement théorique. Maintenant, le problème qui se pose, c'est concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quelquefois, le garçon ou la fille n'a pas vraiment le choix. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils restent les bras croisés, faire seulement possible de rien n'était. Ils doivent faire l'effort d'essayer de trouver une solution. Mais un fait qui est évident, c'est que quelquefois, les choses vont échapper de ses mains. Et là, à ce moment-là, il faut bien préciser ça, que lui ou elle peut justement préciser à ses parents en leur disant « Moi, je suis innocent, inni bari, inni bari, ah, je suis complètement innocent de ce que vous faites. » C'est des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec donc les prophètes de l'islam. Et à ce moment-là, cette personne-là même, malgré elle, rentre dans ce qu'appelle les fuqaha, donc tahat al-ikrah. Donc elle est quelque part contrainte, elle est sous la contrainte. Pas donc quelqu'un qui par lui-même prend la décision de faire une chose et est conscient de son geste. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui prend une décision à ta place et que toi tu n'as rien à dire là-dedans, là c'est une autre affaire à ce moment-là. Tu n'as pas à te culpabiliser, ce sont ceux qui assumeront de responsabilité et monter là devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, si la mère du garçon refuse son épouse, sans donner de raison, comment doivent réagir l'homme et la femme? Donc, la mère du garçon refuse l'épouse.
Oui, ça c'est quelque chose qui arrive souvent, malheureusement. Maintenant, il y a deux points importants ici. Le premier point, c'est que quelquefois il faut laisser jouer le temps. Avec le temps, cette épouse, ça dépend dans quel sens ça va, prenons ici le cas de l'épouse, cette épouse va entrer justement dans le cadre de sa belle-famille. C'est-à-dire que même si la mère, la belle-mère ne la supporte pas, eh bien un jour ou l'autre, elle devra faire avec. Elle devra faire avec cette situation qu'elle a une belle-fille qui est là, qui est l'épouse de son fils, etc. Ça, c'est un point. L'autre point qui est important, le plus important pour la sœur, pour l'épouse et son épouse, c'est qu'ils s'entendent entre eux, c'est le plus important. Et qu'ils ne laissent pas les parents, peu importe le côté, qu'ils ne les laissent pas entrer dans leurs affaires et justement tout casser. Parce que malheureusement, nous on dit, l'expression dit, celui qui épouse une femme, en réalité, épouse aussi la famille. Certains disent non, c'est pas vrai, ils peuvent s'arranger entre eux, etc. En réalité, subhanallah, cette phrase est juste à un certain point, parce qu'effectivement, beaucoup de cas de divorce, de dispute, quand tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe, ce sont les beaux-parents qui sont derrière et qui influencent soit la fille ou soit le garçon. Et ça, c'est pas bon. Donc ici, ce qui est important, c'est la bonne entente entre donc l'époux et l'épouse. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, les choses iront dans le meilleur sens. Et là, donc l'épouse doit supporter, Inch'Allah. Et ajrouha ala Allah, elle, ce qu'elle doit faire, c'est bien se comporter, ne pas remettre le mal par le mal. Si sa belle-mère se comporte mal, eh bien, elle a qu'à être la bien meilleure qu'elle dans son comportement. Et Inch'Allah, wa s'fata yiftah, bima Inch'Allah.
Sur quoi se base la musulmane qui doit faire le choix d'un époux? Doit-elle le choisir simplement sur sa religion et laisser ses sentiments de... Donc le choix de l'époux.
Alhamdulillah.
Bien sûr, la base de la religion. Maintenant, elle n'est pas obligée de choisir quelqu'un qui ne lui plaît pas au point de vue physique ou pour lequel elle n'éprouve aucun sentiment ou au contraire pour lequel elle peut éprouver par exemple une répugnance. Parce que justement, parmi les choses qui ont été instituées, lorsque la femme a de la répugnance pour son mari après avoir été mariée, il y a ce qu'on appelle al-khulah. Donc si la femme va éprouver une telle répugnance pour son mari, qu'elle n'arrive plus à entretenir par exemple, de rapport avec lui ou vivre avec lui, à ce moment-là, c'est un des cas, bien sûr, après avoir patienté, pas du premier jour, et là, mais si vraiment elle éprouve une répugnance continue, elle n'arrive vraiment plus à le voir, comme on dit, à ce moment-là, a été institué le khulah. C'est-à-dire qu'en lui remettant en contrepartie d'un montant, soit la dot, un peu plus, un peu moins, etc., en s'arrangeant avec le mari, elle peut donc se séparer de son mari. Mais on a bien dit pour des cas extrêmes, comme par la répugnance. Alors si ça a été institué après le mariage, que dire si au début du mariage déjà, elle éprouve pour lui une répulsion, qu'elle ne provoque un sentiment pour lui. À ce moment-là, bien sûr, elle n'est pas obligée d'accepter le mariage avec lui, mais malgré tout, on dit toujours que la priorité reste la religion. Et c'est ça la base. Que faire avec la beauté, pas du côté de la femme, s'il n'a pas de religion. Mais, bien sûr, il n'est pas demandé ni à l'homme ni à la femme de laisser ses sentiments de côté et d'épouser quelqu'un envers lequel il éprouve une répulsion, une répugnance.
Comment vivre correctement son islam si le mari ne le fait pas? Donc, il prie ses prières, vit son islam au quotidien, mais c'est très difficile de le faire seul et d'assumer seul l'éducation islamique des enfants. Donc, c'est une sœur qui parle. Où trouver de l'aide, que faire? Je demande un conseil.
Si le mari ne pratique pas, déjà ça c'est un mauvais départ. C'est un mauvais choix. Donc avant de se marier, on se marie avec quelqu'un qui pratique. On se marie avec quelqu'un qui va nous aider. Bon, le prophète sallam a parlé Fadfar Bidati Din. Donc la femme est sollicitée pour les quatre choses qu'a cité le hadith du prophète sallam. Sa religion, donc le din, pour sa foi, l'iman, pour sa beauté, pour son argent, bien pour sa lignée, quatre choses. Fadfar Bidati Din, le prophète sallam, qui est automatiquement notre père, il nous fait le choix de la femme convenable qui est celle qui a l'iman, la foi. Si tu as la chance d'avoir une femme avec, à côté de la foi, de l'iman, la beauté et le reste, eh bien, ça c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bienfait qu'Allah t'a donné. Alors, la même chose a dit Allah subhanahu wa ta'ala à la femme. إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ كُمْ a dit le prophète sallam. دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si quelqu'un est venu chez vous pour demander votre fille, quelqu'un qui a de la foi, qui a un bon caractère, eh bien, le prophète sallam le conseille de lui donner la fille. Alors si ce frère, quand il est venu se marier avec cette sœur, n'avait pas ces deux critères, eh bien, il fallait réfléchir avant de dire oui. Mais maintenant, il y a un problème. Au lieu de casser le foyer, au lieu d'aider Shaitan contre votre mari, je vous conseille d'aider votre mari avec votre patience, avec votre invocation, imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala, du'a, avec des rappels de temps en temps, de lui rappeler la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lui rappeler que c'est lui avant tout qui va être, c'est lui qui va être jugé le jour du jugement dernier par Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que c'est lui le chef de la maison. Donc il va être jugé avant vous et vos enfants. Donc il a une lourde responsabilité. Et que si vous avez difficile à pratiquer toute seule, eh bien, essayez d'avoir quelqu'un à côté de vous, une sœur qui vous aide, qui vous rappelle, qui vous soutient, des proches de la famille. Et surtout, ayez avec vous Allah subhanahu wa ta'ala, en se rappelant d'Allah, de la récompense que Allah vous réserve, etc. Mais en même temps, essayez d'aider votre mari. Parce que s'il ne pratique pas dans sa vie quotidienne, c'est qu'il a une faible foi. Son iman, sa foi est faible. Donc il faut l'aider à avoir de l'iman par le rappel, par le conseil, par la sagesse, par le sabr, par le dua aussi. Et surtout, alhamdulillah, la sœur dit que son mari est très gentil, ne l'empêche pas d'aller à la mosquée et de prendre des cours. Mais lui-même refuse de le faire. Mais déjà, ça c'est un très bon point, qui vous laisse chercher la science et pratiquer votre islam. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de la bonté dans son cœur, quelqu'un qui est bien. Il lui manque des choses, alors on l'aide à faire ce qui lui manque, à se rattraper. Comme a dit un jour un savant, quand on lui a posé la question, parce qu'il y avait un jeune qui portait une petite barbe, comme maintenant c'est la mode chez les jeunes. Hein? Comment ça s'appelle? Barbichette, boucle. Alors il a été chez un savant, il lui a dit, regarde, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Le savant lui a dit, tu dois te raser, rase. Soit tu laisses la barbe entière, soit tu la rases. Et il a été chez un autre qui avait de la sagesse, il dit, alhamdulillah, tu as laissé une partie, alors continue à laisser le reste. Donc au lieu de lui dire rase le tout, il lui a dit continue, laisse le reste. Comme ça tu as une barbe entière au lieu d'une partie. Donc au lieu de dire à la sœur divorce ou essaye de te séparer de ton mari, on lui dit essaye de l'aider, inchallah, de le rappeler par ton comportement, par ta sagesse, par ta patience et être un exemple pour ton mari. Alors un jour, inchallah, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider vers le droit chemin.
Et le père et la fille ne s'entendent pas au sujet de la dot, qui de deux aura les derniers mots?
Subhanallah, cette question, je vous fais entrer. Comment est le problème? Hein? Une chacune. Alors, Adil, je vais dire maintenant, il faut un avocat. Non, je pense pas que pas jusqu'à là, Inch'Allah. Comme d'habitude, malheureusement, on doit distinguer entre deux choses, c'est triste. Mais c'est la réalité, il faut faire avec, non pas pour s'y résigner, mais pour être un jour être à ce que nous, nos futurs parents, soyons meilleurs que nos parents à nous. À l'origine, d'un point de vue principe, le père, bien entendu, propose et oriente, le tuteur, donc je parle par là, du tuteur, propose et oriente sa fille. Mais effectivement, si maintenant il y a par exemple un malentendu, par exemple, elle veut 30 000. Il lui dit, non, moi, je veux 150 000. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'un point de vue purement, la principe purement islamique, comme on dit, shari'i, normalement, c'est la décision, c'est la sienne. Lui, il n'est là que pour l'orienter. Donc, il propose et elle dispose. Mais, malheureusement, c'est comme un peu l'histoire de la fête de mariage. C'est le même problème. Et ça, malheureusement, il y a plein, beaucoup de frères et sœurs qui ont connu ça. Donc la sœur, elle ne veut pas grand-chose, et le père, il voit plus grand que ses yeux, et dit non, moi il faut ceci, il faut cela, il faut 100 000, il faut en plus de ça 50 000 pour la fête, etc. Et là, de nouveau, c'est la réponse que nous avons donnée, Inch'Allah, pour tout ce qui est fait, eh bien, c'est pareil ici également. S'il avait le choix purement avec son père, comprenait bien l'islam comme il faut, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Il saurait que c'est elle qui prend la décision. Mais, vu que ce n'est pas le cas, eh bien, de nouveau, malheureusement, elle tombe dans le même problème, c'est-à-dire qu'elle est contrainte. Mukraha. Sauf si elle fait elle essaie de faire intervenir d'autres acteurs, ses frères, sa mère, etc., pour essayer d'influer la décision du père. Ça, c'est une autre affaire. Ou sinon, elle entre dans cette même catégorie qu'on a citée, donc, concernant
Inch'Allah, la tension hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que le meilleur d'entre nous est celui qui honore le mieux la femme et c'est moi qui honore le mieux les épouses. On assure Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve nos familles et nos enfants. Wa dinina fi hadhihi al-bilad. Barakallahu fikum.